Vous écoutez, on lit pour vous.
Les dominants n'ont plus d'énergie pour nos revendications. Une chronique de Samuel Larochelle, parue le 22 avril 2026 dans le magazine Fugue. Ma réflexion est née en entendant une dame affirmer que les Autochtones se plaignent le ventre plein. Mon hypothèse s'est précisée en voyant des gens déchirer leurs chemises au sujet des toilettes neutres. Mon indignation a atteint son paroxysme en découvrant que les paroles homophobes, racistes, sexistes, transphobes et grossophobes sont plus décomplexées qu'avant. Comme si plusieurs membres de la majorité n'avaient plus l'espace mental pour être des humains décents. Retournons à mon premier exemple. Une femme a sombré dans le racisme en m'expliquant que les Premières Nations ne souffrent pas tant que ça en 2026 et qu'elles exigent beaucoup trop du reste de la société. Comme si elle n'avait pas vécu toute sa vie à 15 minutes d'un pensionnat autochtone visant à effacer leur culture. Comme si des générations entières n'avaient pas été sacrifiées au nom de la culture blanche catholique. Comme si les souffrances intergénérationnelles n'existaient pas. Comme si les problèmes sociaux d'aujourd'hui n'étaient soudainement plus causés par les souffrances du passé. Comme si son cerveau n'arrivait plus à composer avec toutes les informations qui remontent à la surface depuis des années et qu'elle avait décidé de faire un « reset mental ». J'ai l'impression d'assister au même phénomène cognitif face à d'autres enjeux de société. Quand le Comité international olympique interdit aux femmes trans de compétitionner comme si la survie de l'espèce humaine en dépendait, alors qu'une seule femme trans a compétitionné aux JO sans grand succès. Quand un fou furieux couvre une policière d'insultes misogynes et sexistes en se filmant pour partager sa folie. Quand les Américains ferment les yeux sur la chasse aux immigrants, aux personnes à la peau foncée qui possèdent pourtant leurs papiers, et à tout ce qui ne leur ressemble pas, sans réaliser que leur société va s'écrouler sans eux. Quand les humains se permettent de commenter le poids des autres, leur style vestimentaire et leur apparence physique. Quand les fans de musique crachent, métaphoriquement, au visage de Chapel Roan parce qu'elle veut des parcelles de vie privées et qu'elle exprime ses limites. Quand ces mêmes personnes citent Céline Dion qui, dans une vieille vidéo, racontait que les célébrités ayant accès à une vie de rêve n'ont pas le droit de se préserver, alors que la diva de Charlemagne a vu son corps tout décalissé à force de ne pas goûter à l'équilibre pendant des décennies. Je me sens dépassée par ces comportements. Mon cerveau n'arrive pas à concevoir que les gens se permettent d'exprimer des idées aussi incohérentes. Comment en sommes-nous arrivés là? D'abord, parlons de dissonance cognitive. Plusieurs membres de la communauté n'arrivent pas à prendre la pleine mesure des souffrances vécues par les minorités ou qu'ils font subir aux minorités. C'est si loin de leur réalité, si gros, si douloureux, qu'une partie de leur cerveau décroche pour ne plus y penser, pour ne pas explorer l'étendue des dommages, pour ne pas avoir à réfléchir autrement et à changer leur comportement. J'émets une autre hypothèse, simpliste en apparence, mais qui me semble révélatrice. Les gens n'ont plus d'énergie pour se remettre en question. La pandémie a laissé des litres de peur et de colère dans le ventre de plusieurs de nos concitoyens et concitoyennes. Les appareils électroniques nous ont mis à distance des autres humains, ce qui a effacé le civisme chez bien des gens et accentué les réflexes de déresponsabilisation de nos comportements sur les autres. Les gens sont épuisés, surexposés à la vie d'autrui sur les réseaux sociaux et surinformés sur les problèmes du monde. Dans une société carburant à la valorisation de ce qu'on possède, on consomme trop, on dépense trop, on travaille trop pour rembourser la carte de crédit, on cherche une valorisation externe grâce à nos accomplissements, sans trouver comment identifier notre valeur intrinsèque. Ajoutons à cela l'inflation, la crise du logement et la montée de l'itinérance, et vous sentirez le stress ambiant grimper. Notre isolement chronique, notre solitude et notre manque de temps sont en train de tuer notre humanité. Quand on court après les minutes, on n'a pas le temps de connecter avec les autres, de respirer, de se déposer, de prendre un pas de recul, de découvrir une nouvelle perspective, de se mettre dans les souliers d'une personne infiniment différente, de prendre conscience de ses biais cognitifs et de ses errances, de choisir de nouvelles façons d'agir et de réfléchir. Quand on court après le temps, notre tête déborde, notre cœur se ferme et notre corps se désarticule. Quand on court après soi-même, on n'a plus d'espace pour prendre soin des autres, on ferme les yeux sur leur vécu, on n'écoute plus leurs besoins et on se convainc très fort qu'ils ne méritent ni notre gentillesse, ni notre compréhension, ni des ajustements dans nos actions. Dans ce 500e numéro de Fugue portant sur l'engagement et le militantisme, je vous encourage à ne jamais vous taire malgré la fatigue ambiante. Et je vous implore de vous engager à mieux prendre soin de vous pour ne jamais perdre votre capacité à prendre soin des autres. C'était « Les dominants n'ont plus d'énergie pour nos revendications », une chronique de Samuel Larochelle, parue le 22 avril 2026 dans le magazine Fugue.
Tendre le bras pour Anne et tous les autres. Un témoignage de William Filion, paru le 25 avril 2026 dans la presse. Je m'appelle William et je suis le père d'Anne, une petite fille de 6 ans. En août 2025, Anne a reçu un diagnostic qui a complètement bouleversé notre réalité. Une maladie auto-immune extrêmement rare appelée la dermatomyosite juvénile. En termes simples, son système immunitaire s'attaque à ses propres muscles et à sa peau. Sans traitement, le pronostic est très préoccupant. Avant même d'obtenir ce diagnostic, Anne a traversé une longue période d'incertitude, marquée par des symptômes de plus en plus difficiles. Elle avait de la difficulté à marcher, à descendre les escaliers, à se lever seule. Manger un repas complet devenait un défi. Elle perdait du poids. Certaines nuits, son sommeil était profondément perturbé par la douleur. Même sans être pleinement éveillée, elle exprimait une grande détresse, criant et bougeant dans son lit, incapable de trouver un réel apaisement. Et, au fil des semaines, nous avions le sentiment de voir disparaître peu à peu notre petite fille, habituellement pleine de vie et de joie. Plus de danse, plus de chansons, simplement de longues journées à devoir se reposer, avec très peu d'énergie pour faire ce qui lui apportait autrefois le plus de bonheur. Ce sont des moments extrêmement difficiles à vivre comme parent. Ce qui rendait la situation d'autant plus difficile, c'est que les réponses tardaient à venir. Nous ne comprenions pas pourquoi elle se sentait ainsi, et les explications étaient difficiles à obtenir. Il a fallu faire preuve de persévérance, nous fier à notre instinct et continuer de poser des questions, parfois en encourageant à explorer des pistes moins évidentes et à considérer l'ensemble de ses symptômes. Après plusieurs mois, nous avons finalement rencontré une pédiatre qui a su porter un regard différent et nous orienter dans la bonne direction. Aujourd'hui, Anne est suivie en rhumatologie. Nous sommes profondément reconnaissants envers les nombreux professionnels de la santé qui ont contribué à faire une différence dans son parcours. Il a fallu persévérer, mais elle est maintenant entre d'excellentes mains. Tout ce parcours nous a aussi fait prendre conscience d'une réalité que nous ne connaissions pas auparavant. Dans son cas, c'est le traitement d'immunoglobuline intraveineuse, un traitement issu du plasma. Du plasma donné par des personnes qui, pour la plupart, ne sauront jamais à qui leur geste vient en aide. Avant cela, je ne connaissais tout simplement pas le don de plasma. Je n'en avais jamais entendu parler. Pour être tout à fait honnête, je n'avais même jamais donné de sang. Le simple fait d'y penser me rendait nerveux. J'avais une certaine appréhension face au processus, la crainte de me sentir faible, voire de perdre connaissance. Puis, en comprenant que le traitement de ma fille dépendait directement de dons faits par des gens ordinaires, comme moi, cette perception a complètement changé. Pour ma fille, cela m'a donné la force et le courage d'agir et de tenter, à mon tour, de faire une différence. Anne, de son côté, avait déjà subi de nombreux prélèvements de sang dans le cadre des démarches visant à comprendre l'origine de ses symptômes. Ses veines étaient petites et parfois difficiles à trouver, et les manipulations répétées rendaient l'expérience douloureuse pour elle. L'idée de recevoir un traitement par intraveineuse pendant plusieurs heures à la fois, d'abord toutes les deux semaines, puis mensuellement, représentait donc pour elle une grande source d'appréhension. J'ai donc pris un rendez-vous pour donner du plasma, non seulement pour contribuer, mais aussi pour lui montrer qu'elle n'était pas seule. Que moi aussi j'allais passer par là, et que j'allais être bien avec une aiguille au bras. Par la suite, nous avons mobilisé notre entourage, famille, amis, collègues. L'objectif était double. Bien sûr, contribuer à répondre à un besoin réel dans un contexte où l'on sait que l'approvisionnement demeure insuffisant, mais aussi créer pour Anne un sentiment d'appartenance, lui montrer qu'elle n'était pas seule dans ce parcours. Nous avons même constitué un album de photos de toutes ces personnes, chacune avec l'aiguille au bras, en guise de soutien. Aujourd'hui, plus de 150 dons ont été réalisés à travers notre réseau, dans différents centres au pays. Et ce que tous nous disent, sans exception, c'est à quel point l'expérience est positive. Plusieurs ont même choisi de poursuivre leur engagement de façon régulière. Mon père donne chaque semaine lorsque c'est possible, ce qui est pour toute ma famille une grande source de fierté. Ce que j'ai compris depuis, c'est à quel point chaque don compte réellement. Derrière chaque traitement, il y a une chaîne humaine complète. Chaque geste posé ici contribue directement à des vies comme celle d'Anne. Dans son cas, ces traitements lui apportent un ensemble d'éléments essentiels dont elle a besoin pour stabiliser sa condition et retrouver une certaine qualité de vie, notamment en la protégeant contre les infections et en réduisant l'inflammation dans son corps, qui affectait sa mobilité. Peu de temps après le début de ses traitements d'immunoglobuline intraveineuse, nous avons retrouvé notre petite fille. Elle a recommencé à danser, à chanter, à jouer, à sourire. Elle a peu à peu retrouvé l'énergie et l'envie de faire toutes ces choses qu'elle avait perdues et qui donnaient tout leur sens à son quotidien. Il n'existe pas encore de solution définitive pour sa condition. Cependant, grâce au traitement, elle peut aujourd'hui bénéficier d'une vie stable, d'une vie pleine, d'une vie d'enfant. Anne va bien, et si vous la croisez, vous ne verrez pas une enfant malade, mais une petite fille heureuse. Et cela, nous le devons à vous tous, donneurs de plasma, donneurs de sens. Sans cette contribution à Emma Québec, entièrement basée sur la générosité de chacun, des traitements comme celui d'Anne ne seraient tout simplement pas possibles. Nous savons qu'encore aujourd'hui, le plasma que nous collectons au Québec ne permet de répondre qu'à environ 30% des besoins en immunoglobuline. Cela démontre qu'il reste du travail à accomplir. Car le véritable enjeu n'est pas seulement d'inciter quelqu'un à donner une première fois, mais bien de lui donner envie de revenir. Mais tout cela commence par un don, et je vous invite, amis lecteurs, à tenter ce premier pas cette année. C'était « Tendre le bras pour Anne et tous les autres », un témoignage de William Fillion, paru le 25 avril 2026 dans La Presse.
La guerre a ses raisons que la paix compte en cadavre. Un texte signé Maya Ombazik OMBASIC, publié dans Le Devoir du 2 mai 2026, en réponse au défi que ce journal lance aux passionnés de philosophie d'analyser un moment une question d'actualité à partir de thèses d'un penseur marquant. Les actuels événements géopolitiques paraissent difficiles à déchiffrer. On sait pourtant tous comment ça finit. C'est précisément ce déjà-vu exaspérant qui pousse vers des penseurs complexes comme Simone Veil et René Girard plutôt que vers les experts des plateaux télévisés. Rarement mis en dialogue, ils offrent pourtant ensemble une grille de lecture saisissante. Veil pose le diagnostic. La guerre sans objectif concret engendre une violence sans limite qui échappe à ceux-là même qui la déclenchent. Mais elle ne répond pas entièrement à la question qui s'impose ensuite. Pourquoi les hommes en arrivent-ils là? C'est ici que Girard prend le relais en révélant le moteur interne de ce que Veil a décrit, le désir mimétique et le bouc émissaire. L'une diagnostique, l'autre dissèque. La force et ses serviteurs. Simone Veil n'a pas attendu la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour comprendre ce que les stratèges mettront des décennies à admettre. La guerre, une fois enclenchée, échappe à ceux qui l'ont déclenchée. Dans l'Iliade ou le poème de la force, 1940, écrit alors que les chars allemands entraient dans Paris, la philosophe observe que la force transforme en chose aussi bien celui qui la subit que celui qui croit la maîtriser. Le soldat qui tue finit par ne plus savoir pourquoi il tue. Le général qui ordonne finit par obéir à la logique de la guerre elle-même. La force aveugle, dit-elle, est ce qui fait de l'être humain une chose, et cette chosification est contagieuse, elle contamine jusqu'à ceux qui pensaient en être les maîtres. Mais toutes les guerres ne sont pas égales devant la force. Il y a des peuples qui savent pourquoi ils se battent, et ce savoir, aussi douloureux soit-il, maintient un fil entre l'être humain et son acte. C'est pour cela qu'il existe des puissances qui entrent en guerre sans que leurs propres citoyens puissent en donner la raison, portées par une logique d'alliance ou de domination qui n'appartient qu'à leurs élites. C'est aussi dans cet écart que se joue aujourd'hui l'une des asymétries les plus troublantes de la géopolitique actuelle. Deux guerres en une. En spectateur passif du drame humain et humanitaire que vit aujourd'hui le Moyen-Orient, comme si l'éternel retour du même faisait hélas partie de son ADN, force est de constater qu'Israël sait pourquoi il va en guerre. On peut contester ses méthodes, dénoncer ses excès, refuser la rhétorique de la sécurité absolue comme justification de la violence, et il le faut. Mais on ne peut pas nier que le peuple israélien porte en lui une mémoire fondatrice d'une intensité rare. La SOA, ou l'annihilation totale de tout un peuple, engendrée sur le continent des Lumières, le « plus jamais » gravé dans la chair collective depuis 1945. Lorsqu'Israël frappe, même là où la frappe est injustifiable, il frappe depuis ce lieu-là, depuis une blessure qui n'a jamais cessé de saigner. C'est pourquoi la guerre, pour lui, a un sens terrible que l'histoire retournera sans doute contre lui, mais un sens quand même. La même chose ne peut pas être dite des États-Unis, entraînés dans le sillage d'un possible conflit avec l'Iran. Quelle est la raison? La vraie raison, celle que l'on pourrait expliquer à un adolescent du Midwest avant de lui remettre un uniforme, pour laquelle le pays serait en guerre contre Téhéran? La défense des alliés? La stabilité régionale? Aucune de ces formules ne résiste à l'examen. Des millions d'Américains risquent d'être convoqués sans aucune blessure collective à venger, aucune survie à défendre, aucune mémoire à honorer. Juste la mécanique aveugle d'une alliance et les intérêts d'une classe dirigeante qui ne sera pas dans les tranchées. Simone Veil a un nom pour ça, la mort avant la mort. Un soldat qui ne sait pas pourquoi il combat est, bien avant de mourir, transformé en une chose. Pourquoi recommençons-nous, génération après génération? Pour répondre, il faut passer de la phénoménologie wallienne, de la force à l'anthropologie gérardienne du désir. Car ce que Veil décrit de l'extérieur, la violence qui s'emballe, le sens qui s'évapore, la chose qui remplace l'être, Gérard en révèle le moteur interne. Le désir de l'autre. Dans « La violence et le sacré », 1972, Gérard montre que le désir humain n'est jamais originaire. Nous ne désirons pas une chose parce qu'elle nous manque, mais parce qu'un autre la désire. Ce désir mimétique produit inévitablement la rivalité, puis la crise, puis la violence. Et plus de deux antagonistes se ressemblent, plus leur haine devient intense. Chacun voit dans l'autre son propre reflet qu'il refuse de reconnaître. La guerre sans objectif décrite par Veil n'est pas un accident. C'est le désir mimétique à son paroxysme. On finit par s'imiter dans la destruction comme on s'imitait dans la convoitise. Entre Israël et l'Iran, ce miroir fonctionne avec une netteté clinique. Gérard appellerait ça la crise des doubles. Deux peuples qui ont besoin de l'ennemi pour savoir qui ils sont. Ce qui les oppose n'est pas seulement géopolitique, c'est la même revendication, à l'exception, à la survie absolue, à une blessure fondatrice que l'autre n'a pas le droit de nommer. Chacun avance vers l'affrontement comme s'il n'avait pas le choix, alors que c'est précisément la logique mimétique qui les y conduit, bien souvent à leur insu. Gérard décrit aussi la résolution de la crise mimétique comme ceci. Depuis que le monde est monde, les sociétés en crise trouvent leur salut provisoire dans le sacrifice d'un bouc émissaire. En désignant une victime commune, la communauté reporte sur elle toute la violence qui la ronge et connaît une paix momentanée jusqu'à la crise suivante. Une conclusion tragique s'impose. La trêve ne survient pas naturellement. Elle se fonde toujours sur un sacrifice. Elle exige un corps. Les civils de Gaza sont ce corps sur lequel s'est déversée non pas une stratégie militaire, mais la blessure existentielle d'un peuple qui ne peut pas se permettre de douter de sa propre survie. Ce n'est pas la force qui frappe, c'est la peur, si ancienne et si fondatrice, qu'elle finit par se retourner contre l'innocence même qu'elle prétendait protéger. Or, ce qui permet au mécanisme de fonctionner indéfiniment, c'est précisément ce qui vient après, l'oubli. Devoir d'oubli. Le mécanisme du bouc émissaire ne fonctionne que parce qu'il s'accompagne d'un devoir d'oubli. La communauté doit transformer son crime fondateur en mythe, en récit, en sacré. Romulus tue Rémus pour fonder Rome. Les Grecs sacrifient Iphigénie pour que les vents soufflent vers Troie. Le Christ est crucifié pour que l'ordre soit restauré. Ces histoires ne sont pas des exceptions, elles sont le modèle. La prospérité européenne bâtie sur la colonisation, la paix d'Oslo célébrée pendant que les colonies s'étendaient. Même mécanisme, même amnésie nécessaire. Le projet du Grand Israël s'inscrit dans cette logique avec une clarté troublante. Fonder un territoire biblique sur des terres habitées exige que les habitants soient d'abord rendus invisibles, effacés du récit avant d'être effacés de la carte. Certains appellent cela la brutalité aveugle. Selon Gérard, c'est de la mythologie en train de se fabriquer en temps réel. On ne peut pas vivre avec le sang sur les mains si on sait que c'est du sang. Alors, on appelle ça de l'histoire, ou du destin, ou de la providence. Le devoir de mémoire est l'antidote au mécanisme du bouc émissaire. Se souvenir que la victime était innocente, c'est refuser que le crime devienne mythe. Israël pratique ce devoir avec une intensité qui force le respect. Mais Gérard avait vu le piège. Une mémoire qui cesse de se questionner elle-même finit par se transformer en certitude. Et une certitude peut justifier contre d'autres exactement ce qu'elle condamnait contre soi. Le « plus jamais » devient alors non plus une promesse universelle, mais un privilège exclusif. Et c'est là qu'il se retourne contre lui-même. Les États-Unis, eux, pratiquent l'oubli institutionnalisé. Hiroshima, le Vietnam, l'Irak. Chaque guerre injustifiable est suivie d'une amnésie savamment entretenue jusqu'à ce que la suivante devienne possible. Une nation qui se souviendrait vraiment ne pourrait pas recommencer. Alors, elle oublie et elle recommence. La question qui reste. Ces deux penseurs nous laissent avec une vérité que ni les stratèges ni les diplomates ne peuvent formuler sans se contredire. Nous ne sortirons pas de cette crise par davantage de dissuasion ou de rapport de force. Ces outils gèrent les symptômes, mais ils n'en nomment pas la source. Quelle est-elle? Elle se pose aujourd'hui, concrètement, pendant que des gouvernements négocient des cessez-le-feu qu'ils ne respecteront pas, pendant que des travailleurs humanitaires comptent des morts que personne ne nommera, pendant que des historiens futurs choisiront quel silence transformer en récit acceptable. Veil nous demande l'attention. Regarder l'autre dans sa pleine réalité sans le transformer en ennemi utile ou en victime commode. Gérard nous demande quelque chose de plus difficile, reconnaître le mécanisme en nous-mêmes. Pas chez l'adversaire, en nous, dans la façon dont nous désignons, dont nous oublions, dont nous construisons nos récits sur des silences que nous avons choisis. La question n'est plus « pourquoi la guerre ?» Nous en connaissons trop bien les rouages. La question, plus brutale et plus urgente, est celle-ci. Sur quel corps, en ce moment précis, sommes-nous en train de bâtir notre prochaine paix? C'est avec cette question que Maya Ombazé termine ce texte publié dans la section « Le devoir de philo » du journal Le Devoir. Le titre « La guerre a ses raisons, que la paix compte en cadavre ». Texte publié dans l'édition du 3 mai de ce journal.